m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Courtoisie, il est 17h30 et bienvenue donc dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec L'Incorrect, donc c'est nous, avec Boulevard Voltaire, avec je sais plus quoi, mais en tout cas beaucoup d'amis, partenaires qui feront une émission chaque jour, donc lundi au vendredi, et donc le mercredi, chers auditeurs, c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire avec L'Incorrect, et donc pour m'accompagner, Marco Brégon. Marc, bonsoir.
Bonsoir
Arthur. Et Rémi Carlu. Rémi, bonsoir.
Bonsoir Arthur, bonsoir à tous.
Au programme de cette émission, on change pas, deux invités et une question qui au fond va traverser les deux heures. Que devient l'homme dans notre époque qui prétend libérer de son corps, de ses liens et peut-être de son utilité? Dans cette première heure, nous allons recevoir Azilis Lecor, rédactrice en chef des pages Opinion du JDD, auteur de L'enfant et l'avenir de l'homme chez Albin Michel et qui organise le 23 septembre prochain au Collège des Bernardins un colloque qui s'appelle « Comment réincarner le féminisme ?» avec notamment Eugénie Bastier, Emma Becker, Marie-Estelle Dupont, Marlène Schiappa, Marianne Durano et bien d'autres. Nous parlerons avec elle donc de son parcours, de l'héritage de Simone de Beauvoir, de la maternité, de cette crise démographique qui pourrait peut-être, enfin on l'espère, s'inviter dans la présidentielle. À 18h30, nous recevrons David Da Silva, historien du cinéma, enseignant, qui publie « L'âge des inutiles, Trump, l'intelligence artificielle, le capitalisme post-humain et l'avenir du cinéma » aux éditions Leitmotiv, un livre que j'ai eu le plaisir de préfacer et qui pose une question peu rassurante. Que reste-t-il de la dignité humaine lorsque la machine devient plus rentable que l'homme? Et je vous annonce, chers auditeurs, la parution prochaine du prochain numéro de L'Incorrect, c'est le numéro 100. Donc pour l'occasion, on a fait un numéro un peu exceptionnel, à savoir plus de 170 pages, avec deux numéros pour le prix d'un de couverture. On vous annoncera la sortie prochaine, ça sera entre samedi et mercredi. Et donc suivez les réseaux sociaux et pour vous tenir au courant. Et je vous rappelle bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission, poser vos questions à nos invités par courriel à courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Azilis Lecor, bonjour.
Bonjour,
merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste essayiste, vous avez un diplôme de philosophie. Pour essayer de comprendre comment on passe de la philosophie au journalisme, c'est intéressant. Vous êtes rédactrice en chef des pages Opinion du JDD, vous êtes passé par les pages Débat et Opinion du Figaro. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'enfant et l'avenir de l'homme » paru chez Albin Michel en 2024. Vous êtes mère de trois enfants, ce qui explique peut-être aussi ces sujets-là. Et donc le 23 septembre, vous réunirez au Collège des Bernardins des femmes pour parler de cette question, comment, et répondre à cette question, comment réincarner le féminisme. Donc le titre contient déjà une accusation, c'est ce que le féministe doit être réincarné, c'est qu'il a peut-être perdu quelque chose, en tout cas un peu plus que son corps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une tradition dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Hmm, ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Azilis, quel livre offrir à une militante no-kids qui organise l'anniversaire de son chien?
Bien, relire Azilis Lecor, L'enfant et l'avenir de l'homme.
Chez Albin Michel, je le rappelle, chers auditeurs. Un dîner avec trois femmes, mortes ou vivantes, vous avez le choix. Vous prenez qui?
Elisabeth de Miribel, Edith Stein, et pour se marier un peu, Emma Becker.
Oui, c'est mieux. Pour rien, je précise. Un candidat à la présidentielle envoyé une semaine seul avec vos enfants?
Ouais, alors j'aurais pas envie de confier mes enfants à quiconque, mais quand même, pour le dissuader peut-être de légaliser la GPA et à Gabriel Attal.
S'il ne devait rester qu'un seul philosophe, ce serait qui?
Platon.
Quel est l'intellectuel le plus surcoté?
Derrida.
Le plus tue l'amour dans le couple, c'est quoi?
Les chaussettes dans le lit conjugal comme par terre, en boule à côté du bac à linge sale.
La vertu la plus sous-cotée des hommes?
La patience.
La vertu la plus surcotée des femmes?
La sollicitude.
Le réarmement démographique, c'est...
Alors, ça dépend de l'émetteur, mais ça peut être de la poudre de perlimpinpin.
Simone de Beauvoir ou Mona Chollet ?
Simone de Beauvoir, sans hésiter.
La féministe, la plus classe de tous les temps.
Jeanne d'Arc.
Le féminisme en trois mots.
Rupture, émancipation et déconstruction.
Et enfin, dernière question pour finir. La maternité, c'est une nuit blanche qui dure 20 ans, une charge mentale qui dure un siècle, un plaisir qui dure une minute.
Je dirais que c'est l'acte le plus libérateur qui soit.
Belle fête.
On pourra en parler.
Merci, Azilise. Alors, commençons par vous. C'est toujours bien de essayer d'un peu mieux connaître nos invités, savoir d'où ils parlent. Donc, ce que je disais en introduction, c'est que vous avez fait de la philosophie politique, et puis aujourd'hui, vous êtes journaliste et essayiste. Comment on choisit plutôt la voie de la presse plutôt que celle de l'université ? Pour quelles raisons ?
Alors, avant d'entrer en master de philosophie politique à la Sorbonne, j'ai effectué des stages en éducation nationale. Et j'avais beaucoup apprécié mon stage auprès d'une enseignante de français qui était jeune, motivée, qui s'amusait le soir bénévolement à prendre ses élèves et à leur faire lire des textes pour les incarner, faire du théâtre en fait. Mais elle devait, à chaque début de cours, les obliger à lire parce qu'ils ne savaient pas lire. Donc, c'est ce que raconte d'ailleurs Madeleine de Gessé dans son ouvrage paru récemment, L'école des illettrés. Et je me disais quand même, on est au lycée. Ça me paraît assez complexe si mes futurs élèves ne savent pas lire. Le prof de philo, lui, il était carrément déprimé parce qu'il avait plus d'années derrière lui. Et puis, en fait, il ne pouvait pas faire de philosophie. Donc je me suis dit, si je fais ce métier, donc je ne ferai pas de philosophie. Mais en même temps, j'aime beaucoup ce contact avec les élèves. Il se trouve que pendant ce stage, il y a eu l'attentat du Bataclan. C'était un lycée de ZEP, on dit REP aujourd'hui, mais... Bon, les élèves, beaucoup n'ont pas voulu faire une minute de silence. Certains ont quitté la classe. Et moi qui débarquais en gros de Bretagne et qui ne connaissais pas d'ailleurs les problématiques d'immigration, ça n'existait pas à l'époque là-bas. Donc moi, je débarquais dans un monde totalement nouveau. Et je me suis dit, ça va être quand même extrêmement compliqué. Et puis, je me suis dit, tiens, je lis la presse, peut-être, pourquoi pas. Et quand je suis montée à la capitale, en bonne provinciale, et bien, je lisais Figaro Vox, j'ai vu une annonce, j'ai postulé, et Alexandre Devecchio m'a rappelé, j'étais au Crous et j'ai entendu la douce voix d'Alexandre, et j'ai été prise à ce stage, et ensuite je crois que ça m'a plu. Il se trouve que
Figaro
j'ai commencé...
Vox qui s'est lancé en 2015.
C'est ça, et là on était en 2018. Et donc je trouvais que cette porte d'entrée, c'est-à-dire par l'opinion, était quand même plus douce pour passer de la philosophie à la presse, parce que certes, on fait de l'actualité, on doit être toujours accroché à ce qui se passe, mais en même temps, on essaie de se poser des questions en faisant des pas de côté pour essayer de creuser et toujours de rattacher à la philosophie, à la littérature, à des choses un petit peu plus profondes qui peuvent nous nourrir, et pas d'être seulement dans le flux permanent.
Pas que dans la réaction, donc c'est-à-dire que pour vous, le journalisme aujourd'hui permet encore de penser.
Oui, je vois en revanche quand même beaucoup d'obstacles à cela, et notamment, et je crois qu'on est tous touchés par ça, on a des lignes éditoriales, mais parfois on a tendance peut-être à penser beaucoup en vase clos, dans des bulles qui sont les nôtres, et c'est quand même de plus en plus difficile, j'ai l'impression, de penser contre soi-même. Donc c'est un défi qui est le nôtre, mais je crois que certaines personnes nous donnent encore à réfléchir dans les médias, oui.
Et vous pensez que les Français sont encore attirés par justement ce principe journalistique qui est de prendre de la hauteur, de réfléchir, de penser, comme vous l'avez dit très justement, parfois contre soi-même, de ne pas être forcément dans du militantisme, dans cette période qui est ultra polarisée, ultra militante. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une appétence pour ça, aujourd'hui ?
De fait, j'ai l'impression que les retours positifs que je peux avoir d'auditeurs, ou de téléspectateurs, etc., même de lecteurs, ce qu'ils apprécient, les retours les plus construits, ce sont souvent des débats où il n'y a pas eu d'opposition frontale, mais il y a eu une discussion et la possibilité de voir émerger, vraiment à la marge parfois, mais des consensus, des petits consensus. Après, ce qu'on reçoit le plus, surtout via les réseaux sociaux, évidemment, en fait, les gens veulent être confortés dans leur avis et cherchent d'abord à une forme, je dirais, de catharsis par les médias qu'ils regardent. Et donc, C'est vrai que quand je vais sur France Inter, parfois, je vois les commentaires sous les vidéos, ils sont pas... Enfin, le simple fait de ma présence peut déranger, et on voit d'ailleurs que c'est toujours le cas avec Charles Sapin aujourd'hui, Radio France qui vote la grève, simplement parce qu'un journaliste qui est pourtant un journaliste, je veux dire, reconnu pour son travail, exactement comme ça a été le cas pour Eugénie Bastier avec France Télévisions, on est aujourd'hui dans une opposition, et ce sont les mêmes qui viendront nous dire que on est dans une société malheureusement polarisée et qu'on ne peut pas avoir de discussion, etc. Donc, mais de fait, ça correspond aussi à une appétence des gens. Et là encore, je veux dire, pour les médias qui sont plus proches de nos idées, des médias de droite, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à cela, parce que on a peut-être été longtemps... mis de côté ou minoritaire, et on l'est toujours d'ailleurs, preuve en est. Mais faisons attention à ne pas être des woke de droite.
La gauchisation des esprits, c'est pas forcément que dans les idées, c'est aussi dans les méthodes. Parlons de vous plus personnellement, Vasilise. Donc vous avez, après avoir essayé un peu la philosophie, tâté le terrain pour l'enseignement, vous êtes devenu journaliste, mais vous avez aussi vécu quelques années avant une conversion. Vous êtes une jeune baptisée, comme on dit, c'est-à-dire jeune récemment, 17-18 ans, c'est ça, si mes 17, notes sont bonnes. Comment s'est passée cette conversion? Vous n'êtes pas né et élevé dans une famille catholique, c'était une reconversion, comment ça se passe? Conversion adolescente.
Oui, c'est un sujet intime, en effet. Moi, j'ai grandi dans une famille, en effet, on n'a pas été baptisés, on est trois enfants, on n'a pas été baptisés, mais mes frères et sœurs, ni moi. Mes parents viennent de familles de tradition catholique. Mon père, d'une famille, je dirais, plus pratiquante, avec voilà, des gens qui avaient une forme d'attachement à la foi, mais peut-être un attachement assez breton, parce que je suis bretonne, et donc il y a une forme de syncrétisme, je dirais presque, en Bretagne parfois, qui mêle et qui me parle beaucoup, mais qui mêle parfois aussi une forme de culture populaire qui peut prendre le dessus sur, je dirais, l'enseignement classique de l'Église, et donc ce qui fait que parfois, en fait, les générations qui suivent décrochent. Mais l'idée de Dieu, en tout cas, était totalement rejetée à la maison. On m'a plutôt éduquée en me disant que c'était quelque chose, pour les idiots, une forme de béquille spirituelle, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile d'être jeté comme ça dans le monde, mais que c'était vraiment quand même pour les faibles. Et puis, puisque rien ne prouvait l'existence de Dieu, pourquoi s'accrocher à une telle idée? Néanmoins, arrivé à l'âge adolescent, je trouvais que c'était un petit peu dur voilà, d'être dans ce monde. Sans lui donner plus de sens. Et puis, ma crise d'ado, ça a été ça, en fait. Je me disais, le seul chemin, en fait, pour pas sombrer dans l'illisme, ça va être d'emprunter la voie nietzschéenne, donc d'être en compétition permanente. Et je trouvais que c'était épuisant et que c'était pas très joyeux. Et puis, l'idée de Dieu, quand même, cheminait de plus en plus. J'avais vaguement lu Pascal, je pense que j'avais rien compris, mais en tout cas l'idée du pari me paraissait assez intéressante. Et puis j'étais dans un lycée catholique, pareil, je veux dire, le catholicisme est totalement déserté, cet établissement. Mais en année de première, il y a un aumônier laïque mexicain un peu joyeux, et pour moi c'était quand même assez triste d'être catholique, c'était pas quelque chose qui donnait envie, quoi. Et lui, il avait l'air assez sympa, et il a proposé une sortie chez des religieuses... des cisterciennes à Campagnac, et j'ai décidé d'y aller, ce qui a étonné tous mes camarades. Et là-bas j'ai fait une rencontre, comme on dit, au travers du témoignage d'une religieuse qui a expliqué pourquoi elle avait fait ce choix de vie. Elle a expliqué qu'elle avait perdu sa sœur et qu'un jour, elle nous avait fait un schéma avec des cercles concentriques. Et elle avait mis dans le premier cercle ses hobbies, dans un cercle plus restreint, peut-être que j'aurais mis, je sais pas, la philosophie, la littérature, un autre ses proches. Et il y avait la pierre angulaire de son existence, et elle avait écrit « Dieu, amour ». Mais encore aujourd'hui, ça m'émeut, ça m'a paru comme une évidence, en fait, qu'il y avait quelque chose de supérieur à nous, et quelqu'un aussi. En fait, quelqu'un qui nous aimait sans qu'on ait à se rendre aimable. Et depuis ce jour-là, Dieu ne m'a... Enfin, en tout cas, la certitude que Dieu existe, ça ne m'a jamais quitté. Et j'étais très bien accueillie dans l'église, même si j'ai parfois des reproches à lui faire aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, avant de quitter le lycée, j'ai reçu le baptême.
Comment vous avez articulé cette soif de philosophie, de vérité, de découverte, de recherche, en lisant des livres, en lisant des philosophes, en rencontrant des gens, parce que quand on est au Figaro Vox, on passe son temps à avoir des tribunes d'intellectuels sur plein de sujets. Comment s'est articulée votre foi récente, neuve, donc pleine de feu, comme tous les nouveaux convertis, et justement ce parcours intellectuel?
Et je me suis souvent posé la question, parce que je voulais absolument faire de la philosophie. Et donc, je crois que j'avais aussi envie, à travers la philosophie, tout à l'heure, vous m'avez demandé si, quel était le philosophe que je voulais garder. J'aurais pu aussi dire, très personnellement, Emmanuel Lévinas. Et dans cette recherche, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de comprendre ce qui est universel et ce qui peut parler à tous en se défaisant des dogmes, en se défaisant parfois aussi d'une certaine charge culturelle, etc. Et donc, enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières d'exprimer et d'essayer de trouver ce qu'est la vérité. Et la philosophie est un chemin. Parfois, je pense qu'elle peut nous mener très loin et nous éloigner de la vérité. Mais elle me paraît encore aujourd'hui essentielle. Et même quand parfois on la quitte, parce que je pense que cette vérité, elle peut se trouver peut-être davantage dans la littérature, en réalité, on a quand même besoin toujours d'y retourner à un moment donné.
Est-ce que la maternité est aussi un chemin pour trouver la vérité?
C'est une grande question. Oui, je crois. En tout cas, moi, ça m'a vraiment transformée. C'était une évidence pour moi de vouloir être mère. Je ne me suis jamais... j'ai jamais imaginé ma vie sans enfant. Mais alors, une philosophe qui n'est pas de notre bord, disons, mais qui a écrit des choses très intéressantes, qui s'appelle Camille Froide-Vaumetry, elle expliquait qu'elle était entrée en féminisme en devenant mère. Et j'ai trouvé cette formule très intéressante parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressée, disons, à mon sexe, à ce qu'est être une femme. Et c'est en devenant mère que ces questions ont commencé à m'intéresser, que je me suis peut-être aussi questionnée sur quel était le rôle d'une femme, au-delà de la maternité, dans la société, même profondément, c'est-à-dire de façon... comment est-ce que moi, j'étais une femme, en fait? Et ça, je ne l'avais jamais questionné auparavant, si ce n'est que je l'avais peut-être éprouvé dans mon rapport à ma mère, à mon père, aux hommes, etc. Mais essayer de répondre à cette question, et c'est d'ailleurs l'objet du colloque, je pense, est venu du moment où je suis devenue mère, donc c'était il y a presque 6 ans, et évidemment, c'est de plusieurs manières un long chemin, puisque en fait, il y a aussi la... À mon sens, je parlais de liberté quand vous m'avez posé la question tout à l'heure. Je crois que c'est la grande question. C'est qu'est-ce qu'être véritablement libre? Comment est-ce qu'on rend d'autres êtres humains que nous avons engendrés, comment est-ce qu'on les rend libres? Et comment est-ce qu'on continue d'être responsable tout au long de leur existence et de la nôtre? Puisque du coup, nous y sommes contraints une fois que nous sommes parents.
Alors, venons-en à votre colloque. Donc, comment réincarner le féminisme? Donc, on a commencé à en discuter, évidemment. Mais revenons à l'origine, si vous voulez bien, on aime bien savoir un peu les coulisses. Comment est née cette idée de faire un colloque au Bernardin, en cette entrée présidentielle? Alors, c'est peut-être pas forcément lié, d'ailleurs, mais justement sur le féminisme, alors que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de guerre des sexes qui ne cesse de se relancer en permanence, qu'on voit des guerres même entre femmes maintenant sur la définition aussi du féminisme, ou ce que c'est qu'une femme, ou ce qu'est n'est pas une femme. Racontez-nous un peu l'origine de cette idée de faire un colloque.
Alors, donc j'ai publié ce livre... mon livre chez Albin Michel en 2024.
L'enfant et l'avenir de l'homme, je le répète, chers auditeurs.
Et à la suite de cette publication, j'ai rencontré plusieurs autres femmes qui avaient publié sur la question de la maternité, sur la question de la natalité. Je connaissais Marianne Durano, mais on s'est recroisés à cette occasion. Je pense aussi à Marie Leborn-Lucas, qui sera présente au colloque. Des femmes qui essayaient de penser la natalité... à la fois comme quelque chose de positif, mais aussi comme quelque chose de politique, nécessaire à la vie de la cité, et des femmes qui essayaient de comprendre ce qui se passait dans le corps féminin sans être dans quelque chose d'extrêmement négatif, à savoir la dépression du postpartum, etc., tout. Et au contraire, de montrer en quoi c'était une puissance féminine, et je me suis dit, c'est quand même intéressant. En fait, je suis pas toute seule, on est nombreuses, et ce serait bien qu'on se réunisse quelque part. Et donc voilà, j'étais en congé maternité l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose que je me permets de dire, on ne le dit pas assez. Une naissance, c'est toujours une renaissance. Et une femme qui a un enfant, elle a, enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça après chaque naissance de mes enfants. Elle a mis l'idée, elle a envie aussi de créer différemment. Je pense que c'est vraiment la vie appelle la vie. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Donc, ça m'a occupée pendant quelques mois. Et nous y sommes arrivés. Et je suis vraiment ravie parce que, à la fois, toutes ces femmes ont été tout de suite partantes, pas eu besoin de leur tordre le bras, et je vois que c'est très bien reçu. Ça intéresse beaucoup de jeunes gens, hommes comme femmes.
Et vous pouvez nous dire un peu qui il y aura à ce colloque ? J'ai cité quelques noms, mais j'ai dû forcément en oublier.
Alors, donc, je donnerai une conférence d'ouverture pour essayer d'introduire le sujet. Ensuite, nous aurons un débat entre Eugénie Bastier et Emma Baker sur la question... de l'héritage féministe, de la libération sexuelle. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'elles peuvent avoir sur certains points des consensus, mais aussi beaucoup de divergences.
Ça va être rock'n'roll.
Oui, absolument. Nous aurons une conférence de Marie Le Borne-Lucas dont j'ai parlé, qui elle a relu vraiment Beauvoir pour essayer de comprendre en fait, cette question du corps chez Beauvoir. Et donc elle essaiera de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut réconcilier féminisme, parce qu'on a préservé le terme, et la question du corps, de la maternité. Il y aura une table ronde sur la notion justement d'habiter ce corps, avec Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue, avec une théologienne, puisque nous sommes au Bernardin, et donc on voulait vraiment avoir cet apport de l'église, qui s'appelle Laetitia Calmen. Et puis nous aurons Marlène Schiappa, qui sera autour de cette table aussi, pour apporter de la contradiction et pour apporter sa vision, je pense, qui est très riche, puisque nous parlerons notamment du travail des femmes, etc. Et puis, alors là, ce sera un entretien avec Kana Deram, qui est une militante féministe radicale, mais qui est opposée à la GPA notamment, ce sera le grand sujet. Et elle parle pas seulement de marchandisation, mais vraiment d'instrumentalisation du corps féminin. Nous aurons un entretien toutes les deux et nous terminerons par ce qu'on a appelé un manifeste pour un féminisme incarné, et ce sera notre chère Marianne Durano qui aura la parole.
C'est un beau programme. Alors, chers auditeurs, malheureusement, vous ne pouvez pas y participer parce que comme ça a plu à tout le monde, il n'y a plus de place. Voilà.
Oui.
Mais en revanche, sortira quelque chose de ce colloque. Alors, quand ou quelle forme
Alors, nous avons demandé à plusieurs des participantes et puis à d'autres d'écrire un texte pour un bouquin. Je ne peux pas trop en dire, mais il sortira le 2 janvier. Il s'appellera « Pour un féminisme incarné ». Et donc, nous essaierons, un peu en trois parties, d'essayer de penser vraiment ce qu'est la femme, à la fois dans un corps incarné, au-delà, évidemment, de la maternité charnelle, parce qu'on ne va pas réduire la femme à cela, mais... ses fécondités au pluriel, et puis la femme dans la cité, et comment, on va dire, la sortir aussi de cette guerre des sexes qui, parfois, a été trop mise en avant par les féministes.
Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, vous devriez attendre le 2 janvier pour avoir le compte-rendu, en tout cas sous un format différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les colloques, pour savoir ce qui s'est dit. Alors, peut-être que certains font des live tweets, comme on dit, ou vous rapporteront, en tout cas, s'il n'y a plus de place, peut-être que s'il y a finalement des gens qui se désistent, peut-être que des places seront en vente, on ne sait jamais.
Tenez-vous au courant. J'ai vu sur des groupes Facebook, il y avait des trocs, donc je suis hyper honorée.
Il y a déjà des trocs de place. Bon, alors si vous avez une place pour le mettre en vente sur le bon coin, ça coûtera plus cher. Alors, vous dites comment réincarner le féminisme, c'est le titre de votre colloque, mais ça veut dire que le féminisme est désincarné ?
C'est le grand reproche que nous faisons à Simone de Beauvoir, c'est d'avoir opposé les femmes à leur réalité corporelle, d'avoir voulu faire des femmes des hommes comme les autres. Il faudra évidemment ressusciter, moi je ne suis pas du tout pour diaboliser Simone de Beauvoir, même si j'ai beaucoup de reproches à lui faire, mais je pense qu'il faut toujours recontextualiser, essayer de voir à quel moment elle écrit cela, dans quel contexte aussi elle l'écrit. Elle vient d'un milieu assez bourgeois, catholique, c'est pas le catholicisme d'aujourd'hui. Et je crois que la place de la femme n'était pas nécessairement... bien respecté, et donc faut, voilà, moi je trouve que plus que le deuxième sexe, Mémoire d'une jeune fille rangée, extrêmement intéressant. Simone de Beauvoir, quand vous disiez Simone de Beauvoir ou Mona Chollet, ça me paraît évident que ce soit Simone de Beauvoir, parce qu'en plus elle a une plume incroyable, elle est très plaisante à lire, et elle a beaucoup de références littéraires, et donc le deuxième sexe est assez plaisant à lire. En revanche, en effet, elle a pensé le corps féminin comme quelque chose de sale. La question de la maternité, elle le dit, pour elle, c'est un drame. L'enfant est un parasite. Et donc, elle oppose sans cesse la femme à son corps. Elle dit son drame à la femme, c'est d'être vouée à répéter biologiquement la vie. Et l'idée, en fait, qui a ensuite influé à la suite de Beauvoir jusqu'à Elisabeth Binter, c'est quand même de se penser toujours dans l'émancipation, et d'abord l'émancipation à ce corps, par la contraception, par l'abandon aussi de la grossesse, jusqu'à l'obsession d'Elisabeth Badinter pour l'allaitement. Ce qui peut paraître un peu ridicule, mais qui est d'ailleurs très intéressant, parce que ça a marqué des générations entières. Ma grand-mère, quand elle m'a vue allaiter mes enfants, elle était scotchée, elle m'a dit... Mais, qu'est-ce que tu fais? Et elles ne se sont jamais posé la question, d'ailleurs, de pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'était une nouvelle norme féministe. Et pour avoir eu cette discussion très, très belle avec ma grand-mère, elle m'a dit, moi, on m'a dit de ne pas le faire, parce que, en fait, j'allais dépendre de ce bébé, j'allais dans une forme d'avilissement, alors que, de fait, par sa condition, elle l'était en plus, puisqu'elle n'est pas une femme qui travaillait, etc. Donc c'était assez intéressant de voir comment ces nouvelles normes, à partir d'une opposition au corps féminin, ont émergé, au lieu de penser un féminisme qui, au contraire, fasse toute sa place au corps des femmes et puisse être intégré même dans le monde du travail, je veux dire, de façon différente, mais en acceptant cette dimension incarnée et sans s'y opposer simplement.
Rémi Kerlu.
Oui, moi je trouve qu'il y a c'est l'une des divisions dans le féminisme contemporain, c'est qu'effectivement, à une certaine époque, on a voulu que les femmes deviennent des hommes d'une certaine manière, c'est-à-dire puissent se fondre dans la société capitaliste, sur le marché du travail, en oubliant leur corps et ce qui faisait leur spécificité, avec cette forme d'acharnement sur la maternité. Et pourtant, aujourd'hui, on voit émerger, je trouve, peut-être par retour naturaliste, un féminisme radical, mais qui se focalise sur le corps au point parfois de réduire la femme à son corps. J'ai deux exemples en tête. C'est d'abord la question du congé menstruel, par exemple. Et puis aussi ce fait divers que vous avez dû suivre aux États-Unis, de cette femme qui a étranglé ses trois enfants à cause d'une crise postpartum. Et on voudrait la réduire, en fait, à cette... effacer sa responsabilité au nom de cette crise postpartum, donc au nom de son corps et de ce qui vient profondément de son corps. J'aimerais avoir votre analyse là-dessus sur une forme de féminisme radical contemporain qui, d'une certaine manière, se réincarne, mais peut-être de manière trop radicale ou caricaturale.
Et je pense que ce nouveau féminisme, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'écoféminisme, c'est cette idée de retour à la nature qui est portée aujourd'hui dans une forme d'écologie politique aussi, c'est-à-dire qu'on considère que la nature est nécessairement bonne, et donc on ne doit pas s'opposer à elle. Là, toutes les limites se voient assez vite, parce qu'en fait, on serait opposé, donc, par exemple, à l'utilisation des OGM, et on n'est toujours pas opposé à l'utilisation de la contraception. Il y a d'ailleurs des questionnements intéressants qui se posent dans ces milieux féministes-là. C'est est-ce qu'on est vraiment obligé d'asservir la femme à des hormones Donc, je trouve qu'émergent des questions qui sont intéressantes. Néanmoins, je pense qu'en fait, ça participe d'une autre logique, qui est une logique d'idéalisation de la nature et même d'opposition à ce qu'est la science. C'est-à-dire que si on prend la question du corps féminin et vous évoquiez le congé menstruel, en fait, les femmes souffrent. On considère qu'il y a une surdice qui souffre d'endométriose, mais ce sont des réalités qui, je pense, ne sont pas véritablement encore comprises, prises en compte. Moi, je ne suis pas du tout favorable à un congé menstruel parce que ce serait en effet absurde d'écarter les femmes du monde du travail alors qu'elles soient laides ou de leur donner ce type de droit. En revanche, je pense qu'on a trop rejeté parfois la médicalisation aussi. Il y a des hormones, en effet, qui peuvent aider les femmes à supporter ce type de douleur, etc. Donc je pense qu'il faut aussi avoir le droit de s'interroger là-dessus. Et je le dis d'autant plus aussi avec un regard... parce qu'en fait, on rejoint aujourd'hui dans ces milieux de gauche parfois certaines pensées qui sont très présentes dans les milieux catholiques. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir par quel chemin on y vient et comment aussi est-ce qu'on peut les interroger avec l'apport de la science et de la modernité.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Aziliz Lecor, qui est la journaliste qui pilote les pages opinion du JDD, qui est également essayiste, puisqu'elle a publié L'enfant et l'avenir de l'homme chez Albin Michel en 2024, et qui organise donc un grand colloque au Collège des Bernardins sur le thème Comment réincarner le féminisme, et qui se déroulera le 23 septembre. Mais le temps d'une petite annonce, un petit message, et on se retrouve tout de suite après.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Nous sommes avec Aziliz Lecor qui pilote les pages Opinion du JDD, qui est également essayiste. Je rappelle son dernier essai, L'enfant et l'avenir de l'homme, paru chez Albin Michel et qui organise un grand colloque au Collège des Bernardins le 23 septembre prochain. Mais vous ne pouvez plus y aller parce qu'il n'y a plus de place. Mais vous attendrez le 2 janvier où paraîtra un livre qui fera un bilan de ce qui se sera dit dans ce colloque. Parce que le sujet passionnant, même si les hommes ne sont pas invités. Comment réincarner le féminisme? Mais vous
ils
savez
sont invités à venir.
Oui, à venir écouter.
Mais ouais. Bon.
Voilà.
Ils étaient invités.
Vous êtes invités. Qu'ils écoutent un peu.
Voilà, trois hommes contre un, attention, la deuxième demi-heure va être rude, là. On va sortir la sulfateuse. Mais vous savez qu'à 18h, c'est également l'heure de la chronique de Rémi Carlu, qui va nous parler, aux surprises, de la présidentielle qui arrive.
L'indolent Raphaël Glucksmann, l'insignifiant Olivier Faure, l'inénarrable Xavier Bertrand, l'inattendu Natacha Polony, et même l'improbable Francis Lalanne, la liste des candidats à la présidentielle n'a cessé ces dernières semaines de s'allonger. Les malheureux journalistes qui s'y sont essayés dénombreraient entre 30 et 40 candidats putatifs ou déclarés du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une phase de pré-candidature. Certaines resteront au stade de la simple déclaration, d'autres dépendent de l'organisation de primaires qui ne verront peut-être jamais le jour, beaucoup jetteront l'éponge en route faute de moyens et de soutien, d'autres enfin seront arrêtés par le véritable premier tour de la présidentielle qui s'appelle les parrainages.
Comment expliquez-vous donc qu'il y ait autant de candidats, cher ami?
Une première explication est à chercher, il me semble, du côté du délitement de notre paysage politique. Il y a d'abord la déliquescence du système partisan. L'opinion n'est plus encadrée et regroupée en quelques familles d'idées par de grands partis comme hier. Dans l'archipel français, l'heure est plutôt aux surmesures électorales et à la logique de la cause, qu'elle soit écologiste ou animaliste, identitaire ou souverainiste. Il y a ensuite la crise des partis. Ceux-ci ne remplissant plus leur rôle de filtre des personnalités, chacun préférant désormais tenter sa chance, au mépris des structures collectives, pour engranger un peu de capital politique. D'ailleurs, ces partis ont été transformés en mouvements, en boîtes à idées, ou en microstructures, éphémères et sur mesure, créées pour appuyer un candidat à un instant T, et non plus agrégés au long cours, élus, militants et sympathisants autour d'un socle idéologique commun. Il y a enfin et surtout, hormis Mélenchon et Le Pen, l'absence de candidats naturels à gauche, à droite et au centre, c'est-à-dire de personnalités dont la force, l'autorité et l'énergie suffiraient à dissuader leurs petits camarades de tenter l'aventure. Et c'est cette absence qui explique la triste publicité faite aux primaires, instrument adéquat pour trancher entre des personnalités équivalentes. Tout comme le rhinocéros de Java, le caméléon Tarzan ou la loutre géante, l'animal politique est en voie de disparition.
Et le problème, c'est que plus il y a de candidats, plus le niveau baisse.
Effectivement, et c'est pour moi le deuxième pôle d'explication, la médiocrité à peu près générale de notre classe politique depuis 10, 20, 30 ans. Le niveau de nos politiciens s'effondrant, et le bilan de ce passé au pouvoir étant franchement calamiteux, tout le monde peut désormais se croire apte à briguer la fonction suprême. C'est quasiment mécanique, le niveau requis diminue, donc tous les intrigants de seconde zone prennent espoir et se jettent dans la bataille. Qu'on y songe un instant. Affronter électoralement le général de Gaulle était sans doute un peu impressionnant. Mais une fois que François Hollande a été élu, une fois qu'un candidat aussi piteusement burlesque a pu accéder aux plus hautes fonctions, alors tout est devenu possible pour tout le monde. En politique démocratique, ce n'est pas le niveau intrinsèque qui compte, mais le niveau relatif. L'élection n'est pas un examen, mais un concours. Quand bien même vous êtes mauvais, il vous suffit de l'être un peu moins que tous les autres. Et c'est pourquoi ce début de présidentiel s'est transformé en un gigantesque combat de nains.
Quelles conséquences cette chute du niveau a-t-elle sur la fonction présidentielle ?
Eh bien, force est de constater que la présidence n'intimide plus le politicien quelconque. Lacéré par la vulgarité et la légèreté, par le manque de gravité et l'absence de hauteur de ses derniers occupants, la fonction suprême a été ravalée au rang des contingences ordinaires. Cette révolution institutionnelle, fondamentale quoique silencieuse, est à mon sens la troisième explication de cette multiplication des candidatures. D'intouchable et d'inviolable, la présidence a perdu de son caractère sacré. On s'en approche maintenant sans plus trembler. Et il n'y a qu'à regarder les derniers soubresauts de la campagne, Édouard Philippe qui croit que servir des frites lui apportera des voix, ou Gabriel Attal qui imagine son compagnon devenir premier gentleman de France, pour mesurer combien le temple a été profané et son éclat perdu. L'exercice de l'autorité était jadis entendu comme un sacerdoce qui réclamait de grands sacrifices et offrait peu de promesses. Il est devenu l'étape d'une carrière essentiellement vouée à flatter le narcissisme des uns et des autres. Qu'est-ce que ce virus de la politique dont toutes ces candidatures témoignent, si ce n'est celui de l'ambition de parvenir à tout prix pour on ne sait trop quoi ? Combien, parmi tous ces candidats, sont réellement habités par le poids de la fonction, par le sens de l'État, par le service de la patrie ? Au fond, la République a été rattrapée par la démocratie, c'est-à-dire par le nivellement égalitaire, par le règne de la quantité, par l'abolition des distances, par le triomphe des passions immédiates, et c'est ainsi que sa part monarchique disparaît. La Ve République, si ce n'est encore la lettre, du moins déjà l'esprit, gît là, à terre.
Merci Rémi Carluche, je ne sais pas encore si c'est un combat maintenant, en tout cas c'est sûr que ça ne vole pas très haut. Aziliz, le corps de cette présidentielle vous intéresse, vous déprime, vous trouvez le niveau acceptable ou comme d'habitude c'est mieux avant ? C'était mieux avant, pardon.
Moi je ne suis pas comme ça. J'aime pas trop le « c'était mieux avant ». Ça me déprime. En revanche, moi j'essaye de ne pas être négative, mais je dois avouer que c'est assez déprimant.
C'était mieux avant.
Je m'amuse à voir que chacun lance son appel. J'ai entendu Natacha Polony, qui est une femme estimable, mais qui dit « je ne veux plus commenter le désastre », comme si on l'attendait pour relever le pays. Je suis assez étonnée, en fait.
C'est étonnant, ça, c'est vrai.
De voir que ça ne cesse jamais. Peut-être que en fait, d'anciens journalistes ont aussi montré l'exemple à la dernière présidentielle et que d'autres vont se trouver...
Quand on y pense, tous les chroniqueurs dont on n'est pas couché sont devenus quasiment tous. C'est-à-dire qu'il y a eu Audrey Poulvard, Éric Zemmour, il y a même Éric Caron, Natacha Polony. Donc il en manquait une ou deux et on y est.
Madame Salamé, mais c'est M. Glucksmann qui y va.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça.
Il y a Nolo qui est dans les starting blocks pour la prochaine.
Nolo qui ne veut pas y aller. Chers auditeurs, nous rappelons que nous sommes avec Aziliz Le Corre, on parle de femmes. Parce que Aziliz, qui, je rappelle, est une femme aussi, mais pilote surtout les pages opinion du JDD, qui a écrit un remarquable essai qui s'appelle « L'enfant et l'avenir de l'homme » et organise le 23 septembre un colloque au Collège des Bernardins, comment réincarner le féminisme. D'ailleurs, vous pouvez participer, évidemment, chers auditeurs, par courriel à courtoisierc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Et nous avons une auditrice qui a une question pour vous. Cher Aziliz, on parlait avec Rémi Carlu du marché de la femme. Depuis que les féministes s'immiscent partout, elles ont rendu le monde du travail impossible. L'auditrice a donc eu beaucoup, donc celle qui parle, beaucoup de problèmes à cause de ces personnes. Est-ce que depuis que les femmes bossent, c'est le bordel ?
Attendez.
J'interprète la question.
Oui, c'est ça, il faut l'interpréter parce qu'en effet, c'est un peu abscon.
Non mais je pense en effet sur le congé menstruel, sur tout ça, dans le monde du travail.
Alors ça, c'est plutôt poussé par des politiques, mais je veux dire, au travail, qui a déjà eu une collègue qui décide de faire grève parce qu'elle réclame un congé menstruel ? Je suis pas sûre que ce soit très majoritaire dans les boîtes aujourd'hui. Moi, je tiens quand même à dire que... je vois les choses évoluer positivement. Je vois que quand on disait avant qu'on partait en congé maternité, en fait, on nous expliquait justement, enfin, tu veux travailler, donc sois un homme comme les autres. Donc reviens le plus vite possible et pars le plus tard possible. Ça, moi, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, et c'est peut-être un des bienfaits du féminisme aussi, eh bien, les femmes, on considère qu'elles ont le droit de partir à la maison. Alors après, les féministes vous diront, revenez, oui, en effet, parce qu'il ne faudrait pas que vous restiez à la maison, sinon vous dépendrez in fine de quelqu'un d'autre, à savoir un homme, et c'est plutôt dangereux pour vous. Donc il y a beaucoup de contradictions dans le féminisme aujourd'hui, mais je pense pas qu'il faille non plus caricaturer ce mouvement. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les avancées du féminisme... dernièrement, je débattais sur France Inter de la question de la congélation des ovocytes. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui proposent aux femmes de prendre en charge la congélation de leurs ovocytes en disant ben « voilà, on va vous les congeler, et puis quand vous aurez 38, 45, peut-être que vous aurez une petite envie d'enfant, et donc vous aurez coché toutes les cases de votre carrière, et là, peut-être que vous pourrez vous poser cette question. » Évidemment, les taux de réussite d'une PMA dans ces conditions sont extrêmement faibles, donc c'est un leurre, et on voit bien les logiques aussi de marché, c'est-à-dire qui ont été... qui ont préexisté à la question du travail des femmes, en voulant les intégrer en baissant les salaires dans les entreprises, en les empêchant aussi de se consacrer à leur maternité par ailleurs, en les empêchant d'être au foyer, en diabolisant même cette question du foyer. Et puis aujourd'hui, en les coupant totalement de leur corps, puisque en fait on leur dit ne soyez plus du tout soumise à vos cycles, vous avez eu la contraception, bah maintenant en fait même vos ovocytes on va les congeler pour que vous soyez surtout pas dépendants de ça. Donc on met des femmes sous hormones toute leur vie, et puis on leur dit un jour quand même de se faire des petites piqûres pour qu'elles puissent là ovuler. Attention, il ne faut pas qu'elles aient un rapport sexuel parce qu'elles risqueraient de tomber enceinte, et puis ça peut être très dangereux. Mais on leur dit pas que ces hormones peuvent avoir des risques pour plus tard, peuvent avoir des risques d'ailleurs immédiats. Une femme qui se fait des piqûres pour congeler ses ovocytes, elle doit aller tous les deux jours à l'hôpital, hein, parce qu'elle peut faire des thromboses, parce qu'elle peut avoir des épanchements dans l'utérus. Enfin, tout ça peut être très dangereux, et puis on n'a pas encore de retour. On n'a pas suffisamment d'études, mais il y a peut-être des risques de cancers hormonaux, de l'endomètre, des ovaires, des cancers des seins. Et je trouve que c'est quand même totalement en contradiction avec l'idée de prendre soin de ce qu'est le féminin.
Marc Obregon.
Vous savez qu'aujourd'hui, on a coutume d'opposer le féminisme à l'ancienne, en gros des 70s, en gros de ces femmes qui réclamaient l'émancipation via l'IVG, mais qui en même temps désiraient finalement un droit à se faire houspiller dans la rue, comme disait Catherine Deneuve. On opposait ce féminisme-là, donc au néo-féminisme moderne, qui en gros est issu de Judith Butler, donc qui a une sorte de lecture de Beauvoir mal comprise, comme souvent par les Américains. Est-ce que cette dichotomie est aussi simple qu'elle paraît, et quel serait pour vous le moment où ça est vraiment, où il y a le moment de glissement entre les deux?
C'est une bonne question, le moment de glissement. Moi, je note surtout que les excès, parce que moi, évidemment, en fait, on peut considérer que c'est une lecture faussée de Simone de Beauvoir, mais de fait, elle a quand même amener les femmes à s'opposer à leur corps. Donc, elle ne disait pas qu'il fallait nier l'existence des sexes. Mais c'est une lecture qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai beaucoup lu Marie-Jo Bonnet, qui est une femme qui était une militante féministe, qui a fondé les Gouines Rouges notamment, et qui, elle, s'est opposée. Elle est donc lesbienne. Et elle s'est opposée à la question de la PMA, à la question de la GPA aujourd'hui. Donc elle est extrêmement courageuse, et à la question du transgenreisme.
Et c'est elle qui justement disait que le néo-féminisme était une diversion de la lutte des classes, en fait. Comme Clouse, car c'est ce qu'elle disait aussi souvent.
Semble-t-il. Ça lui ressemble bien. et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, face à ces excès, aux excès du transgenreisme, à la négation de ce qu'est la femme, il y a quand même beaucoup de femmes qui reviennent du féminisme et qui ont compris que peut-être ce glissement était finalement inéluctable, et donc qui relisent Beauvoir aussi différemment et qui essaient de se penser aussi à partir d'un corps. Et on voit bien des femmes, je pense à Dora Mutu, à Marguerite Stern, je veux dire, il y a une forme de découverte de ce qu'était peut-être le féminisme qui les avait habités depuis leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et de réussir à en sortir, de réussir à sortir aussi d'une famille politique, c'est extrêmement difficile, parce que ce féminisme, en fait, il va au-delà de la question des femmes. C'est une question politique qui, en fait, nous enferme après dans des luttes. Vous parlez de celle de Marie-Jo Bonnet, et je pense que c'est pensé de façon holistique, ce qui permet aussi après de faire des sortes de raccourcis, d'amalgames, de constructions hybrides pour penser le féminin, mais qui nous éloigne totalement de la question de ce qu'est la femme et in fine aussi de ce qu'est l'homme, parce que je pense que j'espère qu'on pourra continuer avec les Bernardins à travailler cette question de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, puisque vous le disiez assez justement, il n'y a pas d'homme invité. Nous ne voulions pas que les hommes soient houspillés à la sortie de l'événement, parce qu'on sait que les hommes n'ont pas le droit de parler des femmes, mais nous voulions aussi vraiment donner la parole à ces femmes d'horizons différents. Et je pense qu'il faudra à un moment donné aussi penser ce qu'est véritablement être un homme, et c'est plus du tout une évidence aujourd'hui. Alors la question s'est jamais posée auparavant, et parce qu'on a été justement dans une voie, à partir du féminisme, je pense, de négation totalement de l'altérité.
Comment expliquer ces injonctions permanentes à l'égard des femmes ou à l'endroit des femmes? Il y a toujours des injonctions, la femme doit être comme ceci, la femme ne doit pas être comme cela, la femme doit travailler, la femme ne doit pas travailler. En permanence, il y a des injonctions, comme si la femme était une espèce de moule, et tout le monde devait rentrer dans ce moule-là. Et en effet, sur les enfants, il y en a un peu moins, sur les hommes, il n'y en a pas du tout. Comment expliquer?
Sur les hommes, il n'y en a pas du tout, vous trouvez?
Il y en a depuis quelques années, mais ça n'a jamais été un sujet de discussion pendant ces derniers siècles. Depuis quelques années, les femmes parlent des hommes se foutent de ce que pensent les femmes des femmes, et se se foutent moins de ce que pensent les femmes d'eux, parce que
mais
ça peut arriver au pénal.
Vous parlez pour vous.
Non, absolument pas. Vous regardez dans la littérature, c'est pas vraiment le sujet. Dans les essais, c'est pas vraiment le sujet. Dans le traitement médiatique, c'est pas vraiment le sujet. Depuis un siècle, la femme est centrale et on lui dit tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, et parfois de manière contradictoire d'une décennie à l'autre. Comment expliquer ce besoin de définir en permanence ce que c'est qu'une femme ?
Ça, c'est vraiment une question intéressante. D'ailleurs, c'est la grande question qui va ouvrir le colloque. Donc, ça va être ma grande mission d'essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'être une femme, en fait ? Je n'ai pas fini d'écrire cette conférence, mais ce que je constate déjà, c'est qu'en effet, on s'est toujours posé la question. Et quand je dis toujours, c'est pas un truisme, c'est vraiment, en fait, Aristote, déjà, essayait de définir ce qu'était la femme. Il ne définissait pas ce qu'était l'homme. Ça allait de soi, parce qu'en fait, l'homme, c'est l'être humain. En revanche, la femme est demeurée un mystère, et je pense que il y a la question, évidemment, de la maternité charnelle. C'est quelque chose d'assez fascinant d'avoir un corps pour deux, d'avoir cette vie qui se déploie en elle, mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'apparaître. Qu'est-ce que le féminin, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de paraître au monde, et c'est peut-être ce mystère qui demeure, qui fait que peut-être depuis plus longtemps, des normes édictées pour elles ont voulu être plaquées sur un mystère qu'on ne comprenait pas. Ça reste pour moi en fait un mystère aussi, j'essaie de le comprendre, mais je pense qu'il serait intéressant d'essayer de poser une définition de ce qu'est le masculin, au lieu de dire simplement... l'homme égale l'être humain. Je pense qu'il y a une question à se poser et une partie de la réponse se trouve, à mon sens, dans cette altérité des sexes qu'il faut réaffirmer et que nous réaffirmerons pendant le colloque. Et je crois profondément que la dimension corporelle est importante, mais qu'il ne faut pas non plus limiter la réponse que nous apporterons à la question de la biologie.
Alors, on va parler un peu de démographie, parce que c'est un enjeu. Que ça devrait être un enjeu présidentiel essentiel, parce que sans démographie, il n'y a plus de Français, donc on peut poser toutes les questions qu'on veut et réfléchir à toutes les solutions, la question sera résolue. Mais avant, parce que de votre livre parlait de cette génération No Kids, donc ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, et j'ai vu dans cette rentrée littéraire passionnante un livre qui va être mis en avant sur encore une mère qui regrette d'avoir eu des enfants. Alors il y avait déjà eu ce précédent il y a une dizaine d'années, là où on croit que c'est encore hyper moderne et punk de sortir ça, ça a déjà été fait, mais comment expliquer aujourd'hui en tant que mère, qu'on puisse écrire je regrette d'avoir eu des enfants? Comment expliquer ce phénomène-là?
Mais alors là, ça rejoint peut-être l'exemple qui était choisi par Rémi Carlu lorsqu'il parlait de cette femme qui a fait une dépression postpartum et qui en est venue à tuer ses enfants. On excuse le pire parce que une femme a été un moment malheureuse et il me semble-t-il c'est totalement contradictoire aussi avec une époque où on essaie de valoriser l'enfant, de comprendre l'enfant dans ses souffrances, etc. Là, on a des femmes qui arrivent et qui disent, je veux dire sur la place publique, en fait, si je pouvais, j'aimerais que tu n'existes pas, mais je t'aime, parce qu'elles disent toujours, mais je l'aime quand même. Moi, je pense que déjà ça c'est dramatique et qu'elles n'ont pas le droit de dire ça à leur enfant. Je veux dire, elles n'ont pas le droit, elles ont le droit de l'éprouver, de le vivre, mais elles n'ont pas le droit de le dire. Je trouve que c'est une violence qui est beaucoup trop grande. Ceci dit, c'est assez intéressant parce qu'en effet, c'est une mode, le regret maternel qui date d'il y a en effet à peu près une dizaine d'années. La grande mode, c'était il y a 6 ans, parce que moi je venais de devenir mère. Et je reprends le travail et j'arrive sur mon bureau Figaro et j'ai plusieurs bouquins qui parlent du regret maternel. Et un livre avait été très touchant, c'est un livre qui a été, il faut savoir que c'est un concept qui a été fondé par une sociologue israélienne qui a fait une thèse sur le sujet, à partir d'articles qui ont commencé à émerger aux États-Unis de femmes qui disaient regretter d'être mère, et c'est devenu un phénomène mondial. Et donc dans un des livres publiés en France, un livre de Sophie Thomas qui a recueilli la parole de ces femmes qui regrettaient d'être mère, en fait quand on lit ça, elles nous font toutes énormément de peine, on est en empathie avec ces femmes, et on voit que ce sont des femmes qui souffrent. Sauf qu'on a plaqué sur une souffrance un discours idéologique, si c'est ce qu'a souvent fait le féminisme, en disant mais finalement si vous êtes malheureuse, c'est pas du tout parce que vous n'avez pas été aimée par vos parents, ce n'est pas du tout parce que en fait, votre conjoint vous a plaqué et que vous êtes retrouvée mère célibataire. C'est parce que la société patriarcale vous a obligée à reproduire des normes et donc à devenir mère alors que vous ne le souhaitiez pas. Et donc au lieu d'essayer de soigner ces femmes, eh bien, on leur dit que la solution, c'est d'être en colère contre le monde entier.
Alors, petit chiffre inquiétant pour ceux qui l'avaient oublié, en 2025, 645 000 enfants sont nés en France, 24% de moins qu'en 2010. La fécondité est donc tombée à 1,56 enfants par femme, et pour la première fois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les décès ont dépassé les naissances. Alors, est-ce que nous sommes face à un accident conjoncturel, canicule, trop chaud, trop froid, ou c'est une vraie rupture civilisationnelle qui approche, selon vous ?
Mais si on regarde le taux de... Enfin, le nombre des naissances depuis l'entrée dans la modernité, en réalité, ça ne fait que baisser, à part cette parenthèse enchantée du baby-boom, mais qui là aussi vient dans un contexte particulier post-Seconde Guerre mondiale, avec par ailleurs des politiques natalistes extrêmement fortes. Moi, l'analyse que je porte, c'est que évidemment, il y a un contexte extrêmement récent, mais plus largement, j'ai fait le constat que c'était... une rupture avec ce qui fondait notre conception même de la vie. On considère que la vie doit être maîtrisée de son commencement à sa fin. On témoigne la légalisation de l'euthanasie récemment. Et on n'accepte absolument plus cette vie qui jaillit. On est même incapable, si on n'a pas projeté, puisqu'il s'agit d'un projet, un enfant, de l'accueillir. Donc il y a dans cette conception qu'on se fait, mais plus largement en fait du vivant et d'autres manières de s'épanouir dans le monde, une rupture qu'Heidegger avait déjà décrite en fait, dans l'entrée dans la modernité.
Rémi Carlu.
Oui, pensez-vous que ce problème, cette crise démographique, disons, est suffisamment pris en compte dans le débat public aujourd'hui ? Pensez-vous que nos responsables politiques, par exemple, qui se présentent à la présidentielle, en ont suffisamment conscience et parlent du problème comme ils devraient le faire? Et surtout, quelle part de ce taux de natalité, disons, peut dépendre d'une politique publique proactive? C'est-à-dire, même si on a un candidat qui est conscient sur le sujet, qui essaye d'agir, en fait, qu'est-ce qui peut dépendre de lui? Et quelle part dépend de lui, pardon, et quelle part lui échappe complètement?
Alors d'abord, notons qu'on vient simplement d'entrer dans la campagne. Mais pour l'instant, ce sujet n'est pas abordé. Il est abordé de manière périphérique, à savoir, on parle d'immigration de travail, d'immigration choisie, etc., etc. Donc, de variables d'ajustement pour ne pas véritablement penser la question. Et à ce jour, aucun candidat n'est capable d'en parler, si ce n'est toujours pour en parler par des leviers économiques et aussi la retraite. Comment est-ce qu'on va faire pour financer les retraites? On ne pense jamais en fait à la question de ce qu'est un peuple qui perdure, etc. Moi, je pense que les politiques, ça devrait être le sujet primordial. C'est pas parce que c'est une obsession personnelle, je pense parce que c'est vraiment la base de ce qui fonde notre civilisation, notre pays, notre nation. Et ce sujet, évidemment, demande une approche qui est holistique. On ne peut pas simplement le penser par des allocations. À mon sens, on peut essayer d'encourager les gens avec une politique du troisième enfant, puisque c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour renouveler les générations. Mais il faudra le penser, à mon sens, dans un récit qui est fait de la nation. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Comment est-ce qu'on leur donne envie de se perpétuer? Comment est-ce qu'on leur donne envie aussi d'appartenir à ce pays? S'il n'y a pas trop de raisons d'être là et de se continuer, les gens ne feront pas d'enfants. Et ce n'est pas parce qu'on leur donnera un chèque comme il a été fait dans certains pays de 6000 euros, qu'ils feront un gosse, non. Ils continueront à jouer au loto.
Il y a quand même ensuite des contraintes réelles. On est dans une société qui s'urbanise de plus en plus. La majorité des Français habitent dans des grandes métropoles. Si vous habitez à Paris, vous êtes dans des cages à lapins. C'est compliqué d'avoir des enfants. C'est compliqué de les faire garder quand maintenant, aujourd'hui, l'homme, est le parent 1, le parent 2, le père et la mère... travail. Il y a quand même des réalités très concrètes de nos choix politiques qui nous ont amenés aujourd'hui à que l'enfant soit encore plus une contrainte qu'avant, d'un point de vue vraiment purement matériel.
Oui, je suis totalement d'accord. Et il y a deux sujets. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut une approche holistique, la question du logement, en fait, elle est au cœur des politiques natalistes. Et on ne parle pas simplement, en effet, de bourse de la CAF. Il y a aussi la question de la mobilité. Parce que dans les milieux... urbain, c'est la question de la place dans les logements, mais dans les milieux plus ruraux, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'à notre lieu de garde, puis ensuite aller à notre lieu de travail, etc.
Comment trouver une école acceptable?
Comment trouver une école alors qu'elle ferme parce qu'il n'y a pas assez d'enfants?
Une école tout court, moi. Un médecin,
acceptable en réalité. Comment accoucher? Comment... Non, mais déjà, il faut avoir une maternité. Il y a toutes ces réalités très concrètes.
Je suis absolument d'accord, mais...
Mais pour vous, voilà, il faut une réflexion presque philosophique.
Oui, on peut pas.
Qui s'inscrit dans un temps long et en même temps greffer une réalité matérielle.
En fait, cette question philosophique, elle demande aussi une approche qui est culturelle, c'est-à-dire que dans nos représentations, si on continue à expliquer qu'en fait c'est impossible d'élever des enfants s'ils partagent une chambre à deux, ou qu'on continue de dire que parce qu'en fait c'est une réalité aussi, les gens les plus pauvres aujourd'hui, à niveau diplôme égal avec des gens plus aisés, vont faire moins d'enfants qu'un couple. De bourgeois. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, je dois tout miser sur cet enfant unique pour qu'il puisse avoir un meilleur niveau de vie que moi, pouvoir lui offrir tout ce qu'il veut. Et on est aussi dans une conception, à mon sens, extrêmement matérielle. Et on manque simplement d'espérance. On n'est plus dans le laisser-faire. On ne fait plus confiance à cet enfant pour pouvoir trouver sa voie lui-même, pour aussi pouvoir s'épanouir par d'autres biais qui ne dépendront pas nous. On pense notre enfant comme quelque chose à investir, une fois qu'on a investi tout le reste.
L'enfant projet.
Et l'enfant doit réussir sa vie. Enfin, c'est quand même le mot d'ordre. Et je vois beaucoup de parents qui sont déjà extrêmement inquiets de se dire que leur enfant n'a pas été accepté dès le CP dans telle école. Moi, je me dis, mais c'est totalement délirant. Là aussi, il se pose une question de notre système scolaire et de ce qu'on enseigne à nos enfants.
Non, mais c'est parce qu'il était HPI, TDAH, c'est pour ça qu'il n'a pas été accepté. Mais il y a aussi, alors ça a choqué beaucoup de Français, à juste titre, vous savez, ces wagons SNCF sans enfants, ces restaurants sans enfants, ces lieux d'hôtel sans enfants. Et on avait reçu, il y a quelques mois, Olivier Rey, qui était à votre place, qui a eu cette réflexion assez juste en disant, il ne faut pas enlever aussi dans le fait de ne pas avoir d'enfants les enfants eux-mêmes qui sont tellement mal élevés que ça donne pas envie d'en avoir. Et ouais, en fait,
ça donne pas. Enfin, c'est qu'on peut pas les supporter dans les mêmes espaces. Quoi.
Bah oui. C'est vrai que sur la existe, SNCF, pardon. Bon.
Moi,
ça me donne envie de prendre un wagon sans enfant.
Quand un parent ne réagit pas parce qu'un enfant crie, il le laisse hurler. Bon, peut-être qu'il y a des enfants qui sont mal élevés, mais. De fait, un enfant, ça crie. De fait, il faut peut-être le sortir du wagon pour le calmer. Mais moi, je trouve que c'est un peu une... Alors non, j'ai beaucoup de respect pour Olivier Rey, donc je ne vais pas qualifier cette réflexion. Mais je trouve que c'est un peu facile de répondre cela. Et me semble-t-il, c'est que chacun va être dans son précaré. Pourquoi est-ce que certains prennent des hôtels no kids aujourd'hui ? C'est pas parce que Mathéo va crier en sautant dans la piscine. C'est juste parce qu'il ne supporte pas de voir un enfant qui court, de voir la vie dans ce qu'elle est. Ils veulent être... En fait, vraiment, les gens se pensent aujourd'hui comme des consommateurs. Et comment est-ce que je peux prendre le plus de kiff en étant sur mon transat, sans jamais être dérangé, sans avoir personne à me parler, puis par contre juste mes notifications sur le téléphone, pour être vraiment toujours dans ma bulle, et ne jamais en sortir. Moi, je trouve que c'est insupportable. Et puis, on parle tout le temps des enfants mal élevés, mais enfin, ce ne sont pas eux qui sont le plus mal élevés dans les transports en commun.
C'est pas faux. Vous avez beaucoup étudié dans votre essai cette génération qu'on appelle génération no kid, pardon pour l'anglicisme, chers auditeurs, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Quelle est la réalité de cette génération ? Est-ce qu'elle est si importante que ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, qui se transmet ? Et quelle est leur angoisse première ?
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a très peu de militants. Il y a très peu de gens qui disent bonjour, je suis no kid. En revanche... Il y a eu une très forte médiatisation autour de ces différents mouvements, No Kids, Shy Free, toujours avec des anglicismes merveilleux, et qui présentaient le fait de s'émanciper de la maternité ou de la parentalité, terme aussi qui me dérange, puisqu'il gomme volontairement la différence entre parent 1 et parent 2. Et ça donnait des arguments finalement à beaucoup de gens, disant « bah oui, en fait, c'est pas bien pour la planète. Ah oui... si je suis une femme, je ne pourrais pas faire carrière avec un enfant, etc. » Et puis les gens finissent par y croire. Mais profondément, si on leur demande pourquoi vous n'avez pas d'enfant, dans des situations qui sont parfois confortables, eh bien, il y a quand même une grosse crainte en l'avenir, ça c'est vrai. Et donc il y a l'impossibilité de s'abandonner en ayant une responsabilité qui de fait nous incombe à vie, qui est celle d'un autre. Et puis il y a une grosse crainte qui est matérielle, mais il y a aussi, je pense... une profonde crise de l'altérité, c'est-à-dire que considérer qu'on doit mettre en pause son emploi du temps, qu'on doit se réorganiser pour quelqu'un qui dépend de nous, eh bien ça c'est impossible pour beaucoup. Et vraiment, je vous assure que ce n'est pas une caricature, j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient « mais si demain je veux prendre un billet d'avion pour aller à Bali, Donc Bali était à destination, je ne sais pas si elle l'est toujours dans leur esprit, mais je trouvais que c'était assez représentatif, c'est-à-dire une image parfaite du couple qui du jour au lendemain dit « il me reste des congés, je les pose, et puis on part surtout en dehors des vacances scolaires, ça nous coûtera moins cher. » Et puis on va sans enfant dans des espaces no kids, on prendra le train pour aller prendre l'avion dans des wagons no kids, et comme ça on reste vraiment entre nous, quoi, et on n'est pas du tout dérangés.
On fait pour la planète. Plus.
Et en plus on fait pour la planète, parce que voilà, c'est idéal de prendre l'avion évidemment. Et je vous assure que les conversations commencent par bah oui, c'est pas bien pour la planète, et puis finissent par bah oui, on peut prendre l'avion quand on veut.
C'est vrai, c'est les mêmes réflexions que des amis à qui je conseille d'avoir un chien. Ils me disent non, mais comment je fais pour partir en vacances à la dernière minute? C'est en fait la même logique qui est assez effrayant.
Et alors pourtant, et c'est ce qu'avait dit Hélène Gâteau qui a écrit ce best-seller sur pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Eh bien, elle disait dans son livre, j'ai quand même décidé de me mettre un petit fil à la patte parce que j'ai des contraintes avec mon chien. Je trouvais que c'était.
Après, les chiens sont quand même beaucoup moins ingrats, quand le plus souvent, qu'un enfant, malheureusement.
Et oui, et je pense, quand on parle de crise de l'altérité, que ça, ça fait peur aussi. Parce que les enfants sont ingrats, et qu'on ne peut pas décider pour eux, qu'on ne peut pas aussi décider de ce que sera notre relation, et ça fait peur à beaucoup, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement.
Non, vous savez quand est-ce que les enfants arrêtent d'être ingrats? C'est quand ils deviennent parents eux-mêmes. Non, c'est vrai, vous verrez, quand vous serez parents.
Toi aussi, tu verras.
Ah bah j'ai vu, j'ai pardonné tout à mes parents. Chers amis, les 18h30, malheureusement, cette première partie prend fin. Je rappelle, donc, nous étions avec Azilise Lecor, qui dirige les pages opinion du JDD, qui a sorti un livre, donc vous l'aurez compris, en 2024, mais qui est encore bougrement d'actualité, L'enfant et l'avenir de l'homme, chez Albin Michel, et qui organise un colloque, ou pour lequel vous ne pourrez pas venir, parce qu'il n'y a plus de place, le 23 septembre, avec ce titre « Comment réincarner le féminisme ?» Et vous attendrez quelques mois, parce qu'en janvier sortira un ouvrage qui récapitulera tout ce qui se sera dit, et ça va être passionnant en entendant peut-être un prochain colloque sur les hommes, et peut-être que cette fois-ci nous serons invités à parler. Cher Azilise, merci infiniment. Chers auditeurs, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de Donald Trump, de cinéma et des IA.